La marge, c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier. Alors quand on se lance dans une opération d'achat-revente, la question est cruciale. Quelle marge viser pour que ce soit rentable? Et la réponse est loin d'être évidente. 15%, c'est le seuil que certains recommandent. Et 20%, ça semble un peu plus intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour couvrir les risques? À 30% et plus, là, ça commence à devenir sérieux. C'est ce qui est venu expliquer Sylvain Turbet, marchand de main expérimenté, au micro du podcast de La Bonne Fortune lors de l'épisode 60. Il nous explique l'univers passionnant de l'activité de marchand de biens. Il revient en détail sur ses premiers flips et on analyse ensemble et en profondeur une opération d'achat-revente proposée sur lebonflip.com, la plateforme d'investissement collaborative. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une vidéo et un dossier complet avec tous les chiffres de ce flip immobilier en cours. Tu peux les télécharger depuis le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode ou directement depuis lebonflip.com/vidéo. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir cette nouvelle émission.
Donc là, en l'occurrence, c'est la banque qui va financer une grosse partie de l'opération, mais qui va prendre le plus de risques. C'est elle qui se rembourse en priorité. Et juste après, il y a les obligataires. Juste après, il y a les equity partners. Et après, à la toute fin, il y a les partenaires du deal. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle un waterfall en anglais, la cascade de remboursement prioritaire qui est très, très, très importante. Parce qu'aujourd'hui, investir en private equity, il ne faut pas se voler la face, c'est quelque chose qui est risqué à la base. C'est pour ça que chacun doit avoir aussi sa propre appréciation par rapport au risque. Et c'est pour ça qu'investir en private equity, ça doit être quelque chose qui vienne diversifier et booster vos revenus et que ça ne doit pas être quelque chose sur lequel vous allez mettre l'entièreté de votre capital. L'étude de deal, la due diligence, c'est vraiment la partie la plus importante sur le deal, au-delà bien sûr du partenaire et du check. C'est quelle est la véracité et la probabilité de succès du deal par rapport à sa probabilité d'échec. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est comment on va s'assurer de minimiser le risque.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Guillaume Deys, le cofondateur de Green Bull. On va parler investissement, private equity, club deal, en quel sens ça peut être intéressant de se regrouper pour investir à plusieurs ou entre amis. Salut Jean-Guillaume.
Salut Ismaël, comment ça va?
Super, super. Bah, écoute, je te remercie d'être présent aujourd'hui. Ton emploi du temps est bien, bien riche. Là, on fait donc forcément cette émission à distance. Là, tu es à Dubaï, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, dans nos bureaux.
Yes, dans les magnifiques bureaux de Green Bull. Avant d'attaquer et de voir les différentes options, les différents avantages, en quel sens les auditeurs qui nous écoutent, les différents investisseurs auraient intérêt à éventuellement investir dans le private equity. On a fait plusieurs émissions sur ce sujet. Est-ce que tu peux succinctement te présenter, présenter ton parcours un petit peu, nous dire qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui là où tu es et dans cette magnifique boîte qui est Green Bull?
Bien sûr. Alors, bon, j'ai un parcours peut-être un peu atypique, mais il n'y a pas vraiment de parcours. Pour moi, tous les parcours sont atypiques. Donc, moi, j'ai démarré en finance. Donc, moi, je suis niçois. J'ai 33 ans. J'ai grandi à Nice. J'ai fait mes études au Canada. J'ai un bachelor en finance. Donc, j'ai eu la chance de faire des études à l'étranger. En parallèle de ça, on avait monté un business avec trois de mes associés actuels. Donc, c'est une histoire Green Bull qui remonte à plus de 10 ans. Ensuite, pour faire des compléments de revenus et pour avoir de la vision. Ensuite, retourner en France à cause d'un problème de famille où, entre autres, mon papa avait eu une petite maladie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était bien de rentrer. Et puis, c'était aussi juste après la crise de 2008 quand on a gradué en 2010. Donc c'était un peu chaud d'avoir du travail à l'étranger. Donc c'était top pour graduer. Mais bon, voilà, j'ai démarré dans une petite banque pour valider mon diplôme. Ensuite, je suis parti en Suisse avec un de mon meilleur ami aussi, qui est président aussi du groupe, Guillaume en l'occurrence, pour travailler dans la même boîte. Donc on se suit depuis des années, et puis ensuite voilà, travailler dans une multinationale où je faisais du business development. Ensuite je me suis dit que j'avais quand même un background en finance, j'étais en Suisse. On a commencé à investir en private equity il y a maintenant 10 ans, en 2011, sur notre première opération. C'est un peu la naissance du groupe. Et on a démarré avec une bande de potes. On a créé une boîte au Delaware. On s'est mis à 5 pour arriver avec un ticket minimum de 30 000. On était donc à 5, 6 000 chacun. Bon, la boîte, entre-temps, s'est crashée. Mais bon, ça faisait partie des risques de la due deal et des risques du métier. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a appris aussi avec le recul, avec l'investissement private equity. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler juste après. Mais voilà, c'était comme ça qu'on a démarré. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas repartir dans la finance? Donc, je suis rentré dans une superbe institution que beaucoup de gens rêveraient de travailler. Donc, c'était JP Morgan en banque privée à Genève.
Yes.
Et puis, j'avais un gros salaire, hein. J'étais dans les 90 à 100 000 à l'année. Donc, j'étais bien payé, mais j'étais pas heureux du tout. Dès le deuxième jour, j'ai voulu arrêter. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer un banquier privé là-bas, parce que c'était vraiment ça que j'aspirais à faire, hein. Moi, je suis rentré par la petite porte. J'étais en middle office, dans les dérivés. Donc, j'étais entre les traders et le marché, à booker des trades en face des machines. Alors que moi, je suis plus quelqu'un de front, quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens connectés, faire de la relation et développer du business sur le terrain. Donc, il m'avait dit, bah, écoute, c'est soit tu restes, soit pendant 5 ans, tu vas manger un peu ton pain noir et ensuite tu passeras un graduate programme. Et ensuite, s'il y a de la place, Inch'Allah, comme on dit à Dubaï, tu auras probablement un poste ou pas en banquier privé. Je me suis dit, non, mais t'as pas compris, j'ai 25 ans à 30 ans. Moi, ma boîte, elle est déjà montée, j'ai déjà des associés. Enfin voilà. Donc j'ai quitté rapidement, quitte à perdre près de 50% de mon salaire, pour faire de l'immobilier. Donc j'ai commencé à vendre des appartements, ensuite des villas. Ensuite je me suis aperçu que le temps c'est de l'argent. Donc j'ai commencé à vouloir faire des promotions, parce que tu vends 10 apparts au même endroit, donc du coup en 4 heures tu peux faire 8 meetings. Et quand t'es dans un pays comme la Suisse, où t'as beaucoup de trafic. Donc, moi, j'étais à Genève et puis du coup, tu te dis, si tu vends des appartements et t'es mal organisé dans tes journées, tu fais peut-être 2-3 rendez-vous. Moi, j'avais carrément acheté un vélo, je m'étais rapproché le plus possible de la société là où je bossais, et puis j'avais bien quadrillé les trucs pour optimiser le temps en fait et faire un maximum de ventes. Puis après, j'ai compris que l'argent n'était pas dans l'immobilier en termes de commercialisation, il était dans la promotion. Donc j'ai fait des promotions, notamment en Suisse avec d'autres associés. Et puis, c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent. Et c'est comme ça qu'en parallèle, en fait, on a monté le groupe, en fait. Moi, j'étais salarié pendant un moment, hein, jusqu'en 2017, 2018 même, où on a accéléré avec la création du groupe en 2017, qui aujourd'hui, je vais peut-être en parler rapidement, permet aux gens de révolutionner leurs finances. Je vais en parler rapidement.
C'est top. Donc, ce background avec ces études dans le domaine de la finance, ces différents postes salariés comme ça, et de là, quand t'es parti donc de ce fameux poste assez rapidement et que tu t'as commencé à te lancer dans l'immobilier, là, ça tu le faisais déjà avec Greenbull.
Alors, en fait, il y avait une partie où j'étais salarié, mais en fait, ça fait depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait. Ça fait plus de 13 ans maintenant, bientôt 15, que je fais du développement personnel. Et moi, j'avais retenu une phrase de Jim Rohn qui disait « Tu quittes ton salariat quand tu arrives à générer deux fois ce que ton salariat te permet d'avoir. » Et je suis arrivé à un moment où, en fait, je gagnais très bien ma vie, mais on avait des aspirations, des ambitions, on avait créé des choses qui étaient en train de se mettre en place avec les cofondateurs du groupe. Et j'étais un des derniers à les rejoindre à full time. Parce que il y avait déjà, je l'ai fait sur la base d'un bénévolat pur au début, parce que au début faut bien démarrer. Donc j'étais content d'avoir le salaire et d'avoir une position au bout de 5 ans où je gagnais bien ma vie, puis j'ai été capable d'utiliser cet argent pour développer le business. Et quand j'ai vu que c'était critique, après j'ai dit non, on y va. Et ça a été un des meilleurs conseils. Et puis si on a certains auditeurs qui sont aussi dans cette même dynamique de est-ce que je quitte mon travail, est-ce que si, est-ce que là, moi j'envisage toujours qu'il faut prendre conscience qu'être entrepreneur, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. On va parler d'investissement, bien sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Et des fois, certaines personnes feraient mieux de rester salariées et d'avoir une activité en parallèle qui génère des compléments de revenus, qui permet à ces gens-là de s'éclater. Moi, j'avais vraiment maximisé tout. J'allais au boulot après peut-être 5 heures par semaine parce que j'avais des clients qui venaient, c'était devenu le fun. Et alors, quand tu développes ton business et que tu kiffes tellement ce que tu fais, moi, j'ai jamais vraiment travaillé en fait. Pour moi, le travail, c'est vivre.
Yes. Merci pour cette introduction. Et c'est vrai que, en effet, là, on voit qu'il y a une vague même de démissions suite au coronavirus. C'est un terme là aux États-Unis, tous ceux qui démissionnent, des millions de personnes. En France aussi, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, comme tu le soulignes. Et en effet, il est peut-être intéressant d'un point de vue vraiment personnel de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fait pour me lancer à développer vraiment un business, quel qu'il soit, hein. Ça peut être de reprendre une simple boutique, à monter quelque chose de vraiment plus gros, d'être ambitieux. Mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Et en même temps, c'est intéressant aussi de se lancer pour tester, parce qu'on peut pas savoir avant, on peut être bloqué par des peurs, par des craintes, que ce soit notamment avoir un certain niveau de revenu minimum qui assure nos arrières, mais c'est intéressant. Et le fait d'être salarié, en tout cas, ça n'empêche en rien le développement de l'entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent, et encore moins l'investissement. C'est vrai que ça peut être très très intéressant de mixer, d'avoir comme ça cette force de frappe avec une situation confortable. On le voit dans le domaine de l'immobilier, pour soulever du crédit, notamment en France, etc. Ça peut être intéressant si on a un bon poste, CDI, les banquiers, ils aiment bien, avec un endettement qui est assez cool. Donc ça peut être bien aussi de rester comme ça dans une zone de confort quand on taffe, comme tu l'as dit, t'as tout résumé. Si on s'éclate dans son taf, au final, on n'a pas l'impression de travailler, on se lève le matin avec le smile et on fonce. Donc ouais, c'est intéressant.
En fait, la zone de confort, en fait, faut la défoncer un maximum pendant même que t'es salarié. Alors moi, j'étais salarié, mais j'avais des commissions, donc j'avais l'impression d'être en fait juste sous la chapeaute d'une société, d'une structure qui me permettait d'avoir des revenus quasi illimités, parce que ça dépendait du nombre de ventes que je faisais. Donc comme j'étais à la commission, j'avais un salaire plus une commission. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut de toute façon sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, celui qui pense qu'il va rester salarié en mode zone de confort et d'un coup il va être entrepreneur et miraculeusement il va y aller, ça va être compliqué. Ce qu'il faut, c'est défoncer sa zone de confort en tant que salarié ou avec des perspectives de développement, prendre peut-être monter un nouveau business en parallèle, etc. et maximiser cette partie-là pour après ensuite faire le move. Ce que je veux dire, c'est que être entrepreneur, il y a beaucoup de sociétés qui faillent. Il y en a beaucoup qui faillent pour plein de raisons. Mais pour moi, une des plus grosses qualités qu'un entrepreneur doit avoir, c'est pas forcément. Et là, je rejoins quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrick Beth David avec Valuetainment, qui est un de mes mentors aussi, qui me forme aussi, qui t'explique que t'as vraiment les personnes qui veulent être en mode Tim Ferriss, the 4-hour work week, lifestyle, ne pas travailler beaucoup, automatiser son truc. Et puis t'as des gens qui sont un peu plus comme nous, où on est des bâtisseurs, on crée de la valeur, on est là pour aller chercher le milliard de valorisation, on a des grosses ambitions, on veut changer le monde, on veut tout défoncer. Et ça passe par le outworking. On est obligé de outwork les autres. Ça veut dire quoi? Outwork, ça veut dire travailler plus. Moi, je suis un des plus gros travailleurs que je connaisse, parce que j'ai une grosse ambition et parce que y a rien qui arrive sans travailler. Et à un moment donné, soit tu peux, et y a aucun jugement. Je veux dire, quelqu'un, j'ai l'habitude de dire ça dans la recette du succès, quelqu'un qui, une femme ou un homme d'ailleurs, qui décide d'élever ses 4 enfants et de rester à la maison parce qu'il y a son mari ou sa femme qui veut développer son business, et c'est ça la définition de son succès. Pour moi, elle a plus de succès si elle l'a décidé ainsi et qu'elle le réalise qu'un milliardaire qui finit complètement fané, sans voir ses enfants et qui finit déprimé, voire même avec des enfants qui vont se suicider ou qui vont rentrer dans de la drogue ou dans des choses négatives, et qui se sentent seuls parce qu'ils ont consacré leur vie là-dessus. Donc, il faut pour moi trouver un équilibre et savoir où est-ce qu'on veut aller. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait l'autre. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Et comme dit Steve Jobs, you can only connect the dots looking backward, you cannot connect them looking forward. Donc, tu peux juste connecter les points quand tu regardes en arrière finalement. Et très souvent, ce que je me suis aperçu, c'est que tout ce que j'ai fait, même si ça n'avait pas de sens à ce moment précis, j'arrive aujourd'hui à l'utiliser d'une certaine manière où ça rentre dans quelque chose de positif. Voilà, je m'étends un peu là-dessus, mais c'était juste pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des gens qui voulaient aussi se lancer, etc. C'est pas que de l'investissement. Et pour moi, c'est ça dont on doit parler aujourd'hui. Mais il faut y aller. Voilà. Il faut y avoir de la discipline, il faut y aller. Et il y a un autre truc aussi qui est important. Moi, j'ai eu un gros déclic parce que j'ai perdu un proche. Et du coup, ça m'a rappelé à quel point la vie tient qu'à un fil.
Yes.
À quel point demain tu peux mourir. Et quelles sont les deux choses quelles sont les choses que tu vas laisser derrière toi? Et est-ce que ta vie a eu un sens? Et à un moment donné, ça amène à se poser les bonnes questions. Tant mieux avec le Covid, certains ont pu se le faire et certains passent à l'action. De toute façon, tout passe par le passage à l'action, par la prise de conscience et par le déclic. Et moi, ce que je fais pour avoir une énergie incommensurable et tout ça, c'est que tous les jours, j'écoute du développement personnel. Tous les jours, je fais du sport, je me mindset positif. J'ai pas de télé à la maison, dans le salon, elle est dans une salle bien fermée où je décide de regarder un film ou en général, je vais au cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience des sacrifices. Voilà. Bon, bref, je divague, mais la partie mindset, tu m'as demandé d'en parler. Pour moi, elle est hyper importante dans tout ce qu'on fait et il faut pas se voiler la face. Et faut se mettre dans les conditions de vouloir réussir.
Top, merci Jean-Guillaume pour tout ça. On aura senti vraiment cette énergie, cette volonté de travail et en tout cas de se poser les questions, de faire les choses en conscience de ce qu'on a envie. Ce qui explique un petit peu le résultat un petit peu de Green Bull aujourd'hui. Et après, on ira vraiment sur l'investissement en Club Deal, pourquoi c'est intéressant de rentrer en private equity par ce type de moyens. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas un petit peu Green Bull, donc aujourd'hui, c'est quand même un groupe qui détient plusieurs marques, plusieurs sociétés, où vous êtes, si je dis pas de bêtises, six fondateurs. Est-ce que tu peux dire en quelques secondes, décrire un petit peu ce groupe et les activités que vous y faites?
Volontiers. Green Bull, déjà, green, c'est la couleur du dollar. Bull, sur les marchés financiers, ça veut dire un marché haussier. Donc, Green Bull, c'est une métaphore, pour dire faire de l'argent. Et on l'a créé en 2011. Donc, en fait, en 2011, on a fait du private equity. En 2012, on s'est lancé sur les marchés financiers. On a beaucoup développé cette partie-là. En 2015, on a fait du private equity, notamment dans l'immobilier. Et c'est là où on a découvert notamment Dubaï comme un Eldorado, un hub business très intéressant. Et c'est en 2017 qu'on a vraiment commencé à structurer le groupe qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a une quinzaine de marques et on va dire 5 sociétés. La première, on a une compagnie de courtage en assurance en santé pour seniors. C'est une société un peu historique puisque l'un de nous 6, effectivement, on est 6 associés, on est une centaine de salariés répartis entre la France, la Suisse et Dubaï. Mais en gros, c'est parce que c'est une activité historique qu'on a démarré puisque l'un d'entre nous vient de ce monde-là. C'est du revenu récurrent et on a démarré comme ça, en fait, en 2017. On a aujourd'hui un organisme de formation, notamment, qui est arrivé fortement grâce à Yann, où, en fait, aujourd'hui, Yann Darwin, donc notre organisme de formation aujourd'hui, on forme les gens sur deux choses qu'on n'a pas appris à l'école, comment investir et comment entreprendre. Donc, comment investir, principalement, on est leader en France sur la partie immobilière. On a même agréé par l'État où les gens salariés ou qui ont été salariés peuvent utiliser le fameux CPF, compte personnel de formation, pour acheter nos formations et surtout se faire former. Là où on se différencie des autres, c'est qu'on a beaucoup de contenu certes théorique, mais énormément pratique. On a un club Facebook privé, les gens posent des questions, il y en a une énorme communauté qui agit et c'est à vie. Donc les modules évoluent tout le temps et on apprend tout le temps, il y a une communauté, il y a des gens qui s'entraident, des gens qui font du business ensemble. Enfin voilà, donc ça c'est investissement, donc assurance numéro 2, formation immobilier et formation entrepreneuriat, comment monter sa boîte, comment développer, comment trouver les bonnes idées, etc. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on est en train de démocratiser à travers Green Bull Campus. Ensuite, nous avons Green Bull Services et Green Bull Technology. Donc, on est axé sur tout ce qui, à Dubaï, où on est sur tout ce qui est marché financier. En 3 étapes, on a la partie formation. Comment se constituer un portefeuille boursier long terme? Principe de la diversification. On a une formation notamment partenaire avec eToro qui est financée par eToro où vous pouvez du coup ne pas la payer si vous déposez un montant et que cet argent, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Et puis, on s'est aperçu que les gens, finalement, ils veulent du clé en main. Donc, on donne la possibilité à ces personnes de copier notre portefeuille qui a quand même fait plus de 25% l'année dernière. On est à plus de 30% cette année. On a quasiment 20 millions sous gestion. Et puis, c'est un portefeuille long terme, bon père de famille, diversification, liquide sur eToro pour expliquer aux gens un peu ce qu'on fait et le montrer en fait avec du vrai track record, de l'historique, etc. On a aussi des formations pareilles dans le trading, plus court terme, opportuniste, crypto, indice, forex, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, on a créé l'espèce de Facebook de l'investissement. Donc, on est les seuls avoir créé cette application qui s'appelle Aria, A-R-Y-A, que les gens peuvent télécharger gratuitement. Et puis, il y a une partie premium pour avoir accès à d'autres fonctionnalités, mais où en gros, c'est un peu un réseau social de l'investissement. Donc, si demain, vous voulez pas vous prendre la tête pour savoir ce qui se passe dans le monde, vous avez dans une application ben, des gens qui vous expliquent un peu ce qui se passe et qui ont des convictions plus ou moins fortes et qui partagent ça. Et puis, ça peut vous faire permettre de diversifier vos revenus. Donc, ça, c'est la partie marché financier. Avec un logiciel aussi de risque et de money management pour les gens qui veulent vraiment faire du trading, qui permet de limiter le risque. Parce qu'on est beaucoup dans limiter le risque et maximiser les rendements. Et ça, je vais en reparler plus tard. Donc, assurance, formation IMO, formation entrepreneuriat, marché financier long terme, marché financier court terme, donc liquide. Et le quatrième, c'est 99% de mon temps, c'est myclubdeal.com, qui est en fait notre plateforme où on va sélectionner des deals hyper rentables, hyper sécurisants, à notre communauté d'investisseurs. Déjà, on les sélectionne pour nous parce qu'on n'est pas un broker, c'est-à-dire qu'on ne, on n'est pas quelqu'un qui va faire la publicité d'autres deals. Dans tous les deals qu'on sélectionne, on investit nous-mêmes et en fait, ça permet à nos membres de diversifier en investissant en private equity. Donc, je vais en parler après MyClubDeal, ça va être le focus. Et la cinquième société, c'est notre société d'investissement en Suisse où on prend nous des positions et on investit. Donc, Green Bull, en fait, notre mission, c'est de devenir d'ici 2030 le leader mondial des finances personnelles. Voilà, c'est notre volonté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un gap, il y a un écart significatif entre les personnes pauvres et personnes riches. Et que nous, aujourd'hui, on démocratise l'accès à des deals, l'accès à de l'éducation financière, l'accès à du mindset, l'accès, en fait, à tout ce que nous, on a pu apprendre. On le vulgarise pour le rendre digest, digérable, en fait, pour monsieur, madame, tout le monde, de manière à ce que chacun à son rythme puisse profiter soit d'un produit, soit d'un service, soit d'une vision, soit d'un déclic qui leur permet d'améliorer leur vie en gagnant plus d'argent. Voilà. Nous, notre mission, c'est de faire des économies aux gens et faire gagner de l'argent aux gens en les éduquant et en les rendant indépendants dans le sens où ils vont pouvoir comprendre un peu plus ce qu'ils font. Et y a un marché qui est immense entre des banquiers aujourd'hui qui vous répondent pas forcément à des problématiques d'investissement, mais qui font plutôt de l'opérationnel, de l'exécution, de j'utilise un compte bancaire et à la limite un financement immobilier et encore. Et des banquiers privés qui proposent des deals à des gens qui sont très aisés. Et aujourd'hui, le milieu, y a pas grand monde, à part des conseillers gestionnaires de patrimoine. Certains sont très bien, d'autres sont un peu shady, sont un peu en mode je pense qu'à mes coms et puis je vais pas forcément dans l'intérêt du client, puis je fais des choses old school. Aujourd'hui, on le voit notamment avec l'avènement d'Internet et surtout des cryptos et de tout ce qui se passe avec le Covid qui a accéléré la prise de conscience de l'investissement. À tort ou à raison, on fait pas de jugement, mais aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients. Avant, pour booker un trade sur les marchés, fallait prendre son téléphone, appeler quelqu'un, avoir suffisamment d'argent sur son compte, etc. Aujourd'hui, les gens peuvent ouvrir un compte de courtage en 30 secondes et peuvent trader sur les marchés. Et il y en a même certains qui le font tellement mal qu'ils finissent par faire des bêtises qui leur perdent beaucoup de choses. Donc nous, on éduque les gens vers ce principe de diversification. Et si j'ai un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que investir, c'est fondamental pour son futur, sa retraite, ses enfants, tout ça. Et si vous ne prenez pas le temps de vous former ou de diversifier vos actifs et de vouloir faire des all-in dans certains secteurs qui peuvent demain vous ruiner, vous allez non seulement vous mettre votre propre vie financière en péril parce que oui, aujourd'hui, on est là pour parler de l'argent, mais parce que l'argent, c'est un moyen d'atteindre vos objectifs. Moi, j'ai un objectif personnel qui est d'aider les gens à révolutionner leurs finances, mais j'ai aussi un objectif futur d'une boîte charitable basée sur la transmission. On en reviendra un jour peut-être, mais je sais aujourd'hui que tout passe par avoir du cash, avoir un réseau, faire des deals, avoir de la légitimité, de la crédibilité et monter. Et ça, si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos futures générations, parce qu'à un moment donné, on est dans une époque où ça devient compliqué, si vous voulez, de trouver les bons deals parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui utilisent en fait l'ignorance de certaines personnes pour s'enrichir et il y en a toujours et c'est dur de passer à travers. Donc il y a vraiment ce côté de due diligence, de vigilance à avoir pour savoir comment sélectionner les bonnes opportunités, comment sélectionner les bons deals, comment rentrer dans un bon réseau de confiance. Puis il y a aussi le temps. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont artistes, il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais ils veulent faire fructifier leur cash. Ils n'ont pas forcément confiance en leur banque parce qu'elle leur propose pas grand-chose. Ils n'ont pas forcément confiance en certains CGP parce qu'on leur propose toujours la même chose. Et les gens veulent, voilà. En général, les gens viennent chez nous parce que ils se sentent en confiance. parce que nous, on est en mode no bullshit. Et ça veut pas dire que tout ce qu'on fait, on le fait parfaitement, mais en tout cas, on explique ce qu'on fait et on dit ce qu'on fait et on éduque et on prend des risques maîtrisés. Et ça, c'est vachement important. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question sur le groupe.
Ouais, super clair. On voit ce grand panel avec toute cette diversification au sein du groupe. Et c'est vrai que, tu vois, j'en parlais hier, ne serait-ce sur votre compte trading eToro que vous proposez de répliquer avec l'un des associés. Ce que je le répète, je suis moi-même associé dans Green Bull. Là, j'ai participé à l'avant-dernière levée de fonds et en parlant, en discutant avec l'un des associés qui réplique, je confirme les 25% sur cette année qui a une belle performance. Et c'est pareil, j'ai eu le plaisir également de boire, on va dire ça comme ça, l'immense contenu et gratuit et payant de notamment Yann et bien d'autres qui m'a permis même moi-même à titre personnel de faire certaines choses et d'être aujourd'hui libre de mon temps, d'avoir pu basculer, comme tu as dit, du salariat à l'entrepreneuriat, l'investissement, grâce aussi à tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu la mission de ce podcast de la bonne fortune, c'est de donner des clés aux auditeurs pour qu'ils puissent prendre en main leurs finances personnelles d'une façon générale, car je suis également convaincu que l'investissement est sur du temps long et très très important pour toutes les raisons que tu as citées auparavant. Donc merci pour cette belle présentation du groupe. Ouais.
Je vais juste finir avec une petite parenthèse. Si certains ne nous connaissent pas, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube Yann Darwin, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, donc Yann Darwin, c'est un de nos associés qui vous démocratise et vulgarise un petit peu tout ce qui est finance personnelle. Et ça va du private equity au marché financier, à l'investissement immobilier. On parle des NFT, on parle un petit peu de tout. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est la diversification. Chacun va commencer, puis après, le but, c'est de diversifier. Donc on est bientôt à 200 000 abonnés quand même sur la chaîne, donc le contenu plaît et on est content de le faire, et c'est quelque chose qui te fait brillamment et qu'on va continuer de développer avec le groupe pour créer toujours de plus en plus de contenu. J'espère que certaines surprises vont arriver l'année prochaine qui vont permettre d'accélérer encore 10 fois plus vite ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est vraiment dans une logique de croissance et de développement. On est là pour du long terme, on n'est pas là pour faire un shortcut et prendre, on va dire, de faire des formations rapides et puis encaisser de l'argent et puis redémarrer autre chose. On est là pour bâtir une vraie entreprise solide pour aller chercher plusieurs centaines de millions d'euros, voire 1 milliard de valorisation. Et c'est pas des blagues, on est vraiment, on a signé un pacte moral d'entente entre nous. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce combien de temps ça va prendre du temps? En tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on se développe et chaque année, on grossit pour le moment. On a fait plusieurs levées de fonds depuis 2017 et on a levé pas des fonds en mode entre guillemets lever des fonds pour lever des fonds, chaque fois des petits montants suffisants à investir pour développer le groupe, pour pas pouvoir se diluer. Et puis c'est là aussi où j'invite la réflexion de certains. Ensemble, nous, notre slogan, c'est Together we achieve more. On croit beaucoup à ça. Vous avez, est-ce qu'il vaut mieux avoir 100% d'une petite boîte ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 1% d'Apple ou 0,1% de Google? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis pas actionnaire majoritaire, il y en a aucun d'entre nous qui l'est. On a des parts qui sont équilibrées, qui nous permettent d'avoir aussi une certaine forme de démocratie et de contrôle, de gouvernance et de vision stratégique où on se met d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'accélérer avec les bonnes personnes.
Du coup, avec tout ça, donc tu parles justement et tu fais le parallèle par rapport à votre situation où vous êtes plusieurs dans cette boîte, etc., ce qui vous permet de proposer les différents services que vous proposez, mais également d'investir. Monsieur, madame, tout le monde, demain, j'ai envie, moi, d'investir, de prendre part dans un deal. Donc, je peux le faire en direct. Souvent, ça demande des tickets assez importants, 50, 100, 200 000 en fonction. Ou alors, on peut se regrouper entre amis pour avoir cette somme de le faire en direct. Mais après, ça peut peut-être poser des soucis à la sortie d'un point de vue légal, fiscal, etc. On peut le faire également, de se regrouper entre amis ou à plusieurs, même si on ne se connaît pas, de rentrer avec via une holding qui serait vraiment un véhicule qui servirait exclusivement à rassembler une certaine somme, ou alors participer via des club deals. Comment ça se passe? Quelles sont les différentes voies d'accès?
Alors, moi, ce que je propose, c'est que je vais t'en parler dans l'explication de ce que c'est myclubdeal.com pour bien préciser qui on est, ce qu'on fait et en quoi ça peut être intéressant pour certains. La première des choses, myclubdeal.com est né d'une demande, de multiples demandes de nos propres clients qui voulaient s'associer avec nous dans des opérations. Étant donné que nous, c'est ce qu'on fait pour vivre, entre autres, hein, investir, il y en a beaucoup de nos clients, hein, parce qu'on forme quand même des centaines de milliers de personnes, qui nous ont dit, bah, quand est-ce que je peux investir avec toi, etc. Donc, on s'est posé des questions, on a commencé avec un premier deal. Et puis, en fait, on a démarré le club l'année dernière, on devait être peut-être 1500 personnes qui étaient inscrites. Aujourd'hui, on est plus de 7000 membres. Et ça va vraiment du boulanger au notaire, au banquier privé. Enfin, je veux dire, on a de tout, à la santé, aux IT, peu importe le niveau des mécaniciens, on a de tout. On a des personnes qui veulent investir à partir de 10 000 euros. C'est pour rentrer dans les club deals aujourd'hui. Donc, c'est quand même un investissement en private equity. Mais en gros, donc voilà. Donc, My Club Deal, c'est quoi? C'est né de la demande de notre communauté de gens qui voulaient co-investir avec nous. Donc, nous, on cherche des projets, on investit. Et de temps en temps, on propose, voire même de plus en plus systématiquement, on propose à certains de nos membres d'investir, de co-investir s'ils le souhaitent. Et on est aujourd'hui à travers une plateforme qui s'appelle EquiSafe, qui elle est conseillée en investissement participatif, qui nous permet en fait d'avoir jusqu'à 8 millions d'euros par véhicule d'investissement, parce qu'en fait, il a fallu se structurer. On a démarré, on était une dizaine, une centaine, et puis après, on s'est aperçu que pour des questions de gestion et de volume, il fallait trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, vous pouvez tout simplement investir directement dans un club deal à partir de 10 000 euros, donc dans un véhicule d'investissement qui, lui, va investir dans des projets, on va en parler. Et il y a deux manières de le faire. Soit vous avez un ticket suffisamment important, donc certains deals, c'est 1 million d'euros, vous pouvez investir 1 million d'euros tout seul. Soit vous avez certains deals, c'est à partir de 100 000 euros, il faut être un investisseur qualifié, entre autres, et vous investissez en direct les 100 000 euros dans ce véhicule d'investissement qui va lui-même investir dans le projet. Soit vous pouvez investir à partir de 10 000 euros. Et là, tout ce qu'on fait, en fait, c'est que vous vous regroupez en tant qu'investisseur. Il y a la création d'une société qui est amortie par le nombre d'investisseurs. En général, c'est une centaine d'investisseurs par véhicule. À partir de 10 000 euros, ça fait déjà 1 million. Puis le ticket moyen est environ de 15 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en gros, on arrive à 2 millions d'euros. Puis ces 2 millions d'euros permettent à une centaine d'investisseurs d'investir, là où un ticket, par exemple, est d'un million d'euros, dans des deals qui les dépassent. Alors, quel est l'intérêt de le faire? Déjà, c'est de pouvoir se positionner sur des deals qui sont plus gros, de diversifier l'investissement et aussi de diversifier son risque, parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent en ligne de compte. Mais ça, après, chacun s'organise comme il le veut. Donc, My Club Deal, c'est quoi en fait? On gère des deals et des membres. Donc, les types de deals qu'on a, c'est du private equity. Ça veut dire quoi? C'est du non-coté. Donc, ça peut être des deals qui vont être… Donc, un deal, c'est quoi? C'est un projet d'investissement. Et donc, un club deal, ça veut dire que il y a plusieurs personnes qui investissent dans un deal. Pour la petite partie sémantique. Donc, les types de deals, ça peut être sur un sous-jacent. Donc, un sous-jacent, c'est quoi? Ça veut dire l'industrie, si vous voulez, qui est liée. Hein. Donc, ça peut être sur de l'immobilier ou ça peut être dans des sociétés. Là, on a des exemples. On va investir dans des data centers pour du minage. On va en reparler après. Je vais vous donner 2-3 exemples de certains de nos deals. Mais voilà, on a plusieurs types de deals là-dedans. Alors, on a plusieurs types de membres, comme je vous disais. Ça va vraiment donc de la personne qui a 10 000 euros et puis qui peut avoir un modeste salaire. On a aussi des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, des militaires. On en a de tout. Et ça va jusqu'à des gens qui sont des high net worth individuals, c'est-à-dire des gens qui ont des plus gros montants, qui peuvent investir à partir de 100 000, 500 000, 1 million. On a aussi certains family office qui peuvent investir des dizaines de millions d'euros avec nous, c'est le cas. Et on a aussi des hedge funds. On commence à avoir des fonds d'investissement certaines personnes qui peuvent investir des tickets à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. C'est quelque chose qu'on fait. Donc, c'est vraiment très large. Alors, nous, notre pari, c'est de démocratiser pour expliquer un peu ce qu'on fait. Et puis, il y a un phénomène d'apprentissage. Donc, là où on se différencie d'autres plateformes, parce qu'il y a, vous allez me dire, mais en fait, c'est du crowdfunding, c'est pas tout à fait, en fait. Parce que dans du crowdfunding, quand vous investissez dans des plateformes, déjà, vous avez en général un investissement sous forme de dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez pas forcément le projet, vous achetez un rendement. Vous savez pas forcément ce qui va se passer. Vous n'êtes pas actionnaire dans le deal. Vous n'avez pas une part d'equity qu'on appelle l'equity, donc private equity. Donc c'est l'action en fait qui est privée dans un deal, à la différence d'une equity publique qui serait les marchés financiers sur les marchés cotés. Et en fait donc du crowdfunding. Donc nous, à la différence du crowdfunding, c'est que vous êtes actionnaire dans les deals très souvent, ce qui vous permet d'avoir des revenus qui sont beaucoup plus importants. On target des rendements annualisés, ce qu'on appelle IRR, d'environ 15% minimum. Et les horizons de temps en général en private equity, c'est environ 7 à 10 ans. On investit, c'est illiquide parce qu'on investit dans un deal, par exemple, une société qui se développe en venture capitaliste, c'est-à-dire qu'elle démarre, elle fait ce qu'on appelle une seed ou une série A, elle a un potentiel avec peut-être quelques ventes, etc. Elle fait pas forcément de rendement, de chiffre d'affaires, et puis après, elle va se développer. Donc, ils cherchent des fonds pour se développer, pour ensuite éventuellement un jour se coter ou avoir d'autres fonds qui vont investir et qui vont permettre de monter la valorisation de la boîte. Et au bout de 7 à 10 ans, vous vendez vos parts qui vous permettent de faire un fois 2, un fois 3, un fois X sur votre cash. L'inconvénient du private equity, c'est que beaucoup de boîtes se cassent la figure quand on investit au tout début. Donc, ça veut dire qu'on est potentiellement à risque beaucoup sur les sociétés, surtout en fonction des due diligence, en fonction de tout ça. Donc, c'est quelque chose de, à la base, risqué. Mais c'est quelque chose qui offre des rendements qui sont très intéressants. Comment nous, on se diversifie? C'est que déjà, donc non seulement vous êtes actionnaire, donc vous avez des rendements qui sont plus élevés, mais nous, le nerf de la guerre, c'est les garanties, c'est la sécurité de l'investissement. C'est qu'est-ce qu'on va gagner en contrepartie de qu'est-ce qu'on va avoir comme sûreté.
Tu peux donner un exemple d'un deal que vous avez financé là récemment?
Je vais vous donner un exemple de la foncière, par exemple. Là, on était sur un projet qui était hyper intéressant, qui nous vient via un partenaire fonds d'investissement, où en gros, c'est une société qui a été valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros, hein, on va dire 250 millions d'euros de valeur nette. Et cette société, elle a souffert du Covid et elle cherchait à avoir du financement pour continuer de se développer, payer ses dettes, etc. Et donc, du coup, il y a eu un partenaire qui a fait un deal avec eux pour leur apporter du financement. Et aujourd'hui, on a fait un deal avec ce partenaire où on proposait, ils nous ont proposé du 20% en 12 mois collatérisé à 260%. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, le 20% en 12 mois, c'était une obligation. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action direct d'equity, mais c'est une obligation de la société de rembourser les 20% l'investissement qui est fait au bout de 12 mois. Mais alors là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il mettait en garantie les actions de la société qui détient des actifs. Il y a plusieurs centaines de biens immobiliers, pignon sur rue, actifs tangibles, qui mettaient en garantie pour couvrir et l'investissement et les intérêts. Donc tout ça, c'est fait par des avocats contractuels, etc. Et là, on est donc du coup en train de faire un investissement à 20% sur 12 mois. Et si jamais au bout de 12 mois, on n'a pas le retour sur investissement et que c'est liquide, on a des actions de cette société qui détient de l'actif.
Et ouais, donc là, c'était sur un système obligataire donc de dette pour le coup, mais par contre, avec des rendements quand même extrêmement importants. Tu parles de 20%.
Exactement.
Et avec un risque maîtrisé, avec ces actions qui viennent en garantie au cas où, en plus, l'obligation en plus a un droit légal supérieur en termes de remboursement en cas de problème, etc. En plus, donc tout ça fait que donc vous, sur votre due diligence, c'était un risque où tu parlais tout à l'heure du risque minime et du rendement élevé, où le but de l'investisseur, c'est ça, c'est de trouver des choses avec une asymétrie entre, justement, souvent on dit, pour avoir du rendement, il faut aller sur des choses peut-être risquées. Et justement, tout le jeu de l'investisseur, c'est de trouver l'inverse, de trouver quelque chose de assez safe, assez sécurisé, et d'aller chercher le maximum de rendement par rapport à ça, et de trouver une certaine asymétrie entre tout ça. Et donc là, sur ce deal-là, en quelque sorte, ça revient un peu à ce que tu disais, donc ce risque maîtrisé, mais avec quand même un rendement, donc encore une fois, oui, à 20% pour le coup, sur 12 mois, donc en plus avec un cash, entre guillemets,
rapide.
Donc assez liquide, rapide, donc oui, c'est assez intéressant.
C'est ça. Et ça, c'était un des exemples récents un peu atypiques. Je vais vous donner un autre pourquoi on est différent d'autres. Et encore une fois, le but, c'est que c'est très bien d'investir en crowdfunding et d'avoir du 8%, du 6%. Il n'y a pas de sujet. Mais nous, on est là pour faire du 15% à l'année. Parce qu'en fait, au final, c'est le même deal. Vous investissez de l'argent. Nous, on aime bien aller chercher plus d'alpha et donc de proposer ça, donc plus de cash. Je vais vous donner un autre exemple. On a fait des deals immobiliers, par exemple 498 logements au Québec et à travers un de nos partenaires en Nord-Amérique, où en fait, on a structuré le deal de manière à ce que, avec notre partenaire, il y ait un tiers qui soit investi sur le montant, mettons 150 000 euros, mettons 15 000 euros. Il y a donc un tiers qui était investi en equity, qui donnait des actions, et deux tiers qui étaient investis sous forme d'obligations, on appelle des bonds. Et en fait, la structuration du deal permettait d'avoir quatre sources de revenus. C'est-à-dire, numéro un, les deux tiers en obligation donnaient un rendement de 8% par an payé au trimestre pendant 3 ans. Donc, ça donnait un rendement assez régulier au début. Ensuite, la partie en equity, le un tiers, donnait un rendement Par exemple, je crois que c'était 7% de mémoire. 7% par an pendant 3 ans. Donc, ça fait 3 fois 7, 21% qui est payé au bout des 3 ans. On appelle ça du preferred equity. C'est de l'action préférentielle. Vous êtes remboursé après les obligataires. Donc, les gens qui vont faire de la dette. Donc, et après, tout de suite, vous êtes en preferred equity. Donc, vous récupérez le 21%. Comme on est sur des deals qui sont aussi aux États-Unis, au Canada, où il y a de la possibilité de faire du refinancement et où il n'y a pas, à la différence d'en France, parce qu'on a des deals en France, on a des deals aux États-Unis, on a des deals un peu partout, mais par exemple en France, vous avez 95% des permis qui sont attaqués par des gens qui veulent négocier des choses, etc. Aux États-Unis, au Canada, si vous respectez le cahier des charges et vous êtes dans les règles, vous êtes sûr d'avoir votre permis. Donc, on n'a même pas un facteur risque de latence et d'attente, par exemple, hein, dans l'immobilier. Donc, il y a un refinancement qui est fait parce que c'était en l'occurrence une promotion de 498 logements étudiants, donc une thématique qui était hyper en demande en plus de ça là-bas et un peu partout, mais bref. Et en gros, au bout de 3 ans, avec le refinancement du bâtiment, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une banque, on a une banque qui finance la première opération et la deuxième banque ou la même banque va refinancer une fois que tout est bâti, ça a beaucoup plus de valeur, et il y a un remboursement au bout de 3 ans de la totalité de l'investissement qui a été fait. Et là, on est sur un deal de private equity, mais au lieu de sortir en 7 à 10 ans, on sort au bout de 3 ans et on a touché déjà du cash pendant 3 ans. Et c'est pas fini. Il y a un système et un mécanisme. En gros, vous gardez des parts. Vous avez le droit à un rendement, même si vous avez récupéré l'entièreté de votre capital.
D'accord.
Vous gardez un rendement annuel pendant, parce que l'opération dure 10 ans. Au bout de 3 ans, vous avez un rendement annuel, puisque l'objectif, c'était de louer pendant 7 ans. Hein, mettons, si elle dure 3 ans pour la construction, au bout de 7 ans. Donc, chaque année, il y a un rendement qui tombe. Donc, ça vous fait un revenu supplémentaire chaque année sous forme de dividende annuel. Et à l'exit, c'est-à-dire à la sortie, à la revente du bâti au bout de 10 ans, eh bien, vous touchez quand même un pourcentage sur la sortie. Et ça, vous prenez ça sur 10 ans, vous l'annualisez, vous étiez à plus de 15% de rendement avec une récupération des fonds au bout de 3 ans. Donc, ça, c'est des modèles qui fonctionnent bien parce qu'on s'est aperçu… en fait, on design des deals, on structure des deals pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Le maximum de garanties, le maximum d'argent en un minimum de temps. C'est aussi simple que ça, les gens, c'est ce qu'ils veulent.
Ok. Donc, si je résume sur, en tout cas, le montage financier sur ce précédent deal, tu avais donc une partie obligation, une partie equity, du rendement trimestriel. Donc, c'est quand même intéressant parce que souvent, on a du rendement in fine ou alors tous les ans. Et également une prise de participation qui nous permet de sortir en plus avec la plus-value potentielle à la fin et de récupérer également le tout en ayant récupéré l'ensemble de sa poche d'investissement au bout des 3 ans.
Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que ça, c'est le scénario qu'on imagine. Demain, il y a Covid-24 qui arrive et qui se pointe et qu'on doit retarder l'échéance ou on doit retarder des choses. Forcément, ça a un impact. Il y a bien une différence entre une prévision de quelque chose futur sur lequel vous investissez de ce qui va se passer. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est comment on va s'assurer de minimiser le risque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deals qu'on fait, donc là, en l'occurrence, c'est la banque qui va financer la totalité de l'opération, enfin, une grosse partie de l'opération, donc qui va prendre le plus de risques. C'est elle qui se rembourse en priorité. Et juste après, il y a les obligataires. Juste après, il y a les equity partners. Et après, à la toute fin, il y a les partenaires du deal. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle un waterfall en anglais, la cascade de remboursement prioritaire qui est très, très, très importante. Vous êtes, en général, ce qu'on appelle en junior debt, c'est-à-dire juste après la banque. Et là où il y a des deals où il n'y a pas de banque, ben vous êtes tout de suite en priorité. On a fait un deal sur une thématique pour nos actionnaires très, très intéressante. C'est un deal dans la thématique du cinéma où en fait, là, on était sur la création d'un film d'animation qui va bientôt sortir. Et en gros, le deal, vous allez voir comme quoi il est intéressant. On pourrait se dire le cinéma. Moi, quand j'entends du cinéma, je dis non, mais nous, c'est de l'entertainment, c'est risqué, machin. Et quand j'ai compris le deal qui avait été fait par notre partenaire, j'ai dit, oh là là, ça nous intéresse énormément. Pourquoi? Je vous parle du deal là tout de suite. Comme ça, vous savez. Ce film nécessitait 24 millions d'euros pour se faire. Il y avait 70% qui était apporté par la société de production, 30% qui était apporté par des equity partners, donc des actionnaires. Notre partenaire a mis les 7 millions d'euros qu'ils avaient besoin, qui correspondaient aux 30%. Sauf que nous, on lui a dit, mais laisse-nous une petite poche. Qu'on a récupéré 3,5 millions, 3,7 millions. On lui a dit, ça nous intéresse. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que le deal, c'était le suivant. Les gens qui mettaient de l'argent, ils avaient 5% de rendement en année 1, 5% de rendement en année 2, remboursement au premier euro qui est généré par le film au bout de 2 ans, parce que c'est un deal quand même qui va durer 5 ans, mais au bout de 2 ans, le film va sortir et c'est là où, sur le premier marché, il va y avoir un premier cash. Donc, les premiers 7 millions d'euros sur ce film-là remboursent l'investisseur. Et ensuite, il y a le partage des commissions avec les fameux 30% de participation sur l'equity. Et en gros, ça vous donnait un rendement de 268% targeté sur un scénario où ils vont faire leurs fameux 100 millions d'euros de revenus sur le film. Sachant qu'ils l'ont déjà fait sur d'autres films, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais, encore une fois, worst case scénario, le film est un flop total, personne se pointe, c'est catastrophique. Déjà, vous êtes sûr que les premiers 7 millions, c'est remboursé pour vous. Et en garantie, ils avaient demandé à ce que le catalogue de royalties des films précédents, parce que c'est des gens qui ils sont là depuis des années, 1990 et plus, qui du coup ont déjà des revenus. Et ben il était mis en garantie pour couvrir les fameux 7 millions d'euros. Et en plus, ils avaient négocié le fait que ils voulaient récupérer en tout cas 100% de retour sur investissement. C'est-à-dire que il y a 7 millions qui est prêté, le minimum qu'il fallait récupérer c'était 14 millions. Donc il y a les 7 premiers millions qui sont là et les autres 7 millions eh bien, ils étaient compensés par ce catalogue qui a été valorisé dans les 7 millions d'euros par un organisme qui fait ça et qui génère entre 400 000 et 800 000 euros par an de cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le film, c'est un flop, vous êtes remboursé non seulement en priorité, mais en plus, vous avez un catalogue qui vous assure la récupération de vos fonds plus des intérêts.
Ouais, des garanties à l'image des lotissements qu'on peut avoir avec une banque, etc., de mettre une contrepartie en face pour garantir tout ça. Donc, on sent chez toi, chez vous, cette maîtrise, cette volonté, en tout cas, de maîtriser le risque.
C'est le fondamental. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va pas y avoir un deal qui potentiellement va avoir des problèmes. Et c'est dans ce cas de figure où on essaie de mitiger ce risque. Parce qu'aujourd'hui, investir en private equity, faut pas se voler la face, c'est quelque chose qui est risqué à la base, mais si vous le faites avec des garanties qui sont importantes, soit sur des choses tangibles comme de l'immobilier qui est construit, soit sur des revenus qui sont générés, qui sont nantis, soit sur des actions de sociétés qui détiennent des actifs fonciers, etc., et qui sont mis en garantie, ben vous allez peut-être avoir pas votre argent dans les temps, mais vous êtes sûr de d'aller le récupérer par rapport à ce qui a été mis. Et c'est pour ça que chacun doit avoir aussi sa propre appréciation par rapport au risque. Et c'est pour ça qu'investir en private equity, ça doit être quelque chose qui vienne diversifier, booster vos revenus et que ça doit pas être quelque chose sur lequel vous allez mettre l'entièreté de votre capital non plus. C'est quelque chose qu'on fait en plus, on diversifie.
Exactement, ne serait-ce par rapport à ce que tu rappelais, notamment dans certains deals, l'illiquidité qui fait que sur une démarche de diversification peut-être intelligente ou pas, mais en tout cas, moi, la vision que j'en ai, c'est intéressant d'avoir de l'immobilier qui structure, du private equity qui va venir booster le rendement, mais également, pourquoi pas, du marché financier qui permet une certaine liquidité de retrouver son cash assez facilement. Il y a simplement appuyer sur le bouton pour récupérer si demain, je sais pas, on a besoin de s'acheter une voiture, changer la chaudière, payer un voyage, etc. Voilà, on a au moins une poche disponible et c'est intéressant aussi en ce sens. Aujourd'hui, vous arrivez à construire, à proposer ces deals du fait d'intervenir à plusieurs, du fait d'aller chercher des fonds comme ça et de pouvoir se réunir avec des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. C'est ce qui permet d'avoir accès à des deals comme ça qui, en tout cas, sur le papier, ont l'air plus qu'intéressants. C'est la force d'investir à plusieurs, de se regrouper, encore une fois.
Oui, alors avant de répondre à cette question, je voulais préciser une chose. Yann et Guillaume ont fait une vidéo qui est gratuite sur YouTube qui s'appelle Prime. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Hein, on a plus d'1,8 million, je crois, de vues. C'est une vidéo qui a très très bien marché où en fait on vous donne accès à un fichier Excel gratuitement à la fin de la vidéo de formation et on vous montre l'exemple de 3 types d'investisseurs qui sont différents. On a un profil d'un investisseur qui n'investit pas ou très peu dans un actif. On a un profil, donc ça c'est Jean-Jacques, on a un profil comme Kevin qui investit mais un petit peu, et on a un profil comme Bradley qui lui investit, diversifie, et on vous montre la puissance de la diversification dans différentes classes d'actifs. Donc classe d'actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire différentes industries, différentes donc façons d'investir. Donc par exemple l'immobilier, le private equity, les marchés financiers à court terme, les marchés financiers à long terme. Et en fait, on vous montre avec l'effet cumulé et les différentes poches que vous pouvez allouer sur votre cash que vous avez tous les mois en répartissant, mais en fait la différence phénoménale de cash à la fin. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour prendre conscience du fait que chaque jour, chaque mois qui passe, si on n'investit pas son argent, déjà par rapport à l'inflation, on est en perte, Mais en plus de ça, plutôt que d'argent dans la banque, et ben en fait, vous êtes en train de perdre littéralement beaucoup de pouvoir d'achat. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser en allouant bien sûr chacun son niveau de risque et chacun le montant qui est nécessaire à allouer en IMO, en marché financier, en private equity. On doit démarrer aussi quelque part, mais après l'idée c'est de diversifier. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais préciser. Et donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a effectivement une force. La force de nos partenaires, elle est très importante parce qu'on est hyper, hyper sélectif sur les deals qu'on sélectionne. Je veux dire, aujourd'hui, ça, c'est primordial. On veut que les partenaires mettent eux-mêmes de l'argent sur la table. Donc, tous nos partenaires sont des investisseurs dans les deals. On n'a pas de gens qui nous ramènent des deals et eux, ils mettent pas l'argent. Donc, ça, c'est hyper important. Ou s'ils mettent pas d'argent, ils prennent des garanties sur leur tête ou des garanties solidaires ou des choses qui font que si le projet se passe mal, bah, c'est encore pire pour eux. Donc, on est vraiment dans des phénomènes d'incitation à ce que tout se passe bien. C'est vraiment comme ça qu'on pense et qu'on réfléchit, qu'on structure les deals et on fait des back and forth, enfin des allers-retours avec les avocats pour s'assurer contractuellement après que ça match. Et donc effectivement, investir à plusieurs, c'est ça permet de diversifier, ça permet aussi de vous permettre de vous positionner sur des deals qui sont plus gros. Si je vous dis demain que vous allez vous associer à construire 500 logements dans une opération et que ça va vous générer des rendements trimestriels pendant 3 ans, plus un remboursement des fonds au bout de 3 ans, plus du cash dividende annuel, plus une exit à la fin, pourquoi s'embêter à... Et c'est ça aussi, c'est un gain de temps en fait. Parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller structurer les bonnes choses, etc. Et puis si on y réfléchit 2 minutes, quelqu'un qui veut... Comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez remarqué que plus l'objet est petit, plus c'est cher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'acheter. Plus les objets sont grands, moins il y a de monde qui peuvent se positionner dessus. Sauf les gros poissons qui ont des liquidités incroyables et qui peuvent shooter. Vous avez des gens en dessous de 100 millions, en dessous de 250 millions d'euros, ils ne vendent pas. C'est trop petit parce qu'ils ont des milliards à déployer. Faut garder ça en tête. Et en fait, vous avez plein d'opportunités au milieu sur des deals qui sont trop gros pour les petits, mais qui sont trop petits pour les gros, parce qu'ils veulent pas s'embêter à aller chercher ce genre de choses. Et nous, on est sur ce sweet spot, si je puis dire, donc ce point doux, je sais pas comment on peut le traduire d'ailleurs.
Sur ce segment.
Sur ce segment qui, finalement, il y a peu de concurrence. On achète du coup royalement bien. Donc, le rapport au prix au mètre carré est hyper intéressant à niveau de l'acquisition. Je parle pour de l'IMO. Pareil pour des deals de private, si on rentre avec des partenaires qui sont hyper agressifs. Quand je dis agressif, c'est agressif dans les négociations qu'ils font et ils obtiennent des garanties qui sont très intéressantes et qui nous permettent de facto de les avoir. Et puis, ça nous permet avec notre partenaire d'avoir accès à des études de deals. L'étude de deal, la due diligence, c'est vraiment la partie la plus importante sur le deal, au-delà bien sûr du partenaire et du check. C'est quelle est la véracité et la probabilité de succès du deal par rapport à sa probabilité d'échec. Dans chaque fois, on se met vraiment dans un scénario noir. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est comme ça qu'on arrive à proposer des rendements. C'est parce qu'il y a moins de monde sur ces segments-là.
Super intéressant. C'est vrai que, allez, pour faire le parallèle avec l'immobilier classique en direct, il y a beaucoup plus de monde qui va se positionner sur le petit studio, etc., qui va être accessible, plutôt que sur un immeuble de rapport qui va être mix peut-être avec du commercial, etc., etc. Et donc ça, c'est à l'échelle du particulier qui veut faire son investissement immobilier. Mais là, sur des deals encore plus gros, c'est exactement la même pratique, la même stratégie. Ouais, c'est intéressant.
Voilà. Et ça ne veut pas dire n'investissez pas à vous développer votre propre patrimoine immobilier, etc. Bien au contraire, il faut aussi le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des limites de temps aussi. Il y a des limites d'argent. Il y a des limites de plein de choses. Aujourd'hui, il y en a certains qui préfèrent faire que du club deal parce que, bah, finalement, c'est quelque chose qui est quasiment ficelé en fait. C'est ça aussi que les gens achètent, c'est du temps et de l'expertise.
Ouais, complètement, et on l'aura compris, c'est un investissement qui est là pour le coup totalement passif, où la personne n'a pas besoin de prendre de temps, de se déplacer, etc. Le seul travail qu'il y a à faire, c'est de regarder, de faire sa due diligence, comme tu dis, de regarder et de dire, bon allez, j'y vais pas, ça me plaît pas, en fonction des garanties. Donc il y a un petit travail comme ça à faire, mais sinon, en 2 clics, bien au chaud depuis son canapé, on peut y aller. Et donc, c'est aussi assez agréable là-dessus. Pour les personnes qui n'ont pas le temps, la vie de famille, etc., on n'y revient pas. Mais c'est vrai qu'on est tous, pour beaucoup, avec des vies de dingue, le boulot, etc., ou les loisirs également, etc., etc. Et on n'a pas forcément tous le temps d'aller chercher soi-même des deals comme ça, etc. Et donc, le fait que ce soit proposé à l'image d'autres plateformes que tu pouvais citer, peu importe, mais au moins aujourd'hui, on est sur l'ère d'Internet où on a des outils, des possibilités. Et c'est vrai que, comme tu le disais en introduction, ça serait vraiment extrêmement dommage de s'en passer, où tu reprenais l'exemple des trois types de personnes entre celui qui n'investit pas et celui qui investit, et au bout il y a une grande différence. Je remettrai avec plaisir le lien de la vidéo Prime dans les notes de l'émission. C'est vrai, c'est agréable de pouvoir investir de façon assez passive aussi, quoi.
Exact. Et puis au niveau du processus de comment ça se passe, en fait, c'est très simple. MyClubDeal.com, c'est aujourd'hui gratuit. Je pense pas que ce sera payant demain, mais en tout cas aujourd'hui ça l'est. Donc vous pouvez vous inscrire MyClubDeal.com, c'est facile. Mais au-delà de cela, on propose très peu de deals. C'est-à-dire que comme on fait beaucoup de travail, d'études, de recherches, et on se positionne sur des deals qui sont un peu plus gros, on va proposer peut-être un à deux deals par trimestre. En tout cas, c'est ce qu'on a fait cette année. L'année prochaine, mon but, c'est peut-être de faire soit des plus gros deals, soit d'en proposer peut-être un par mois. Mais ça dépend, parce qu'il faut après les suivre, etc. Donc, on n'est pas dans une logique de quantité, on est vraiment dans une logique de qualité. Et à monter en puissance, parce qu'avec plus de 7000 membres, on a une potentiel d'investissement d'environ 300-350 millions d'euros quand même, en potentiel de ce que ça représente. Et puis pas tout le monde c'est le bon timing, des gens des fois ratent les choses, mais ce qui est important, c'est que quand nous on envoie un email, en fait on envoie un email quand vous êtes inscrit sur le prochain deal, on vous dit il va y avoir un zoom de présentation. Je vous encourage fortement à venir au live, parce que le dernier deal a frustré beaucoup de gens, parce qu'en 24 heures on avait levé les 5 millions d'euros qui était prévu par rapport à ça, qui était la poche. On a eu plus de 2 millions et quelques d'euros en attente et en liste d'attente, parce qu'on a toujours une liste d'attente, il y a toujours des gens des fois qui, vous voyez, donc on a cette partie là mais en gros c'est parti extrêmement vite. Et notre but, c'est que dans un live, après c'est fini, on passe à autre chose, le but, c'est qu'on fasse ça. Donc voilà, donc c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune obligation. Ça vous permet aussi d'apprendre comment ça se passe, comment on structure. Ismaël, tu peux aussi peut-être témoigner des data rooms qu'on fait, c'est-à-dire que comment ça se passe en général. Donc vous êtes invité à un Zoom, on présente le deal. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Demain, il n'y aura peut-être même plus de Zoom, il y aura juste la fact sheet, donc la présentation. Mais aujourd'hui, on présente, on vous explique pourquoi, etc. Ça dure en général 45 minutes. On le fait en général sur la poche de déjeuner française, puisque nous, on a 3 heures de plus, mais entre 2 et 3 heures ici. Et en gros, en 45 minutes, vous avez la présentation du deal. Et là, il y a deux cas de figure. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse, comme c'est très souvent le cas, voilà, vous pouvez avoir accès à un formulaire, vous remplissez votre niveau d'intérêt, vous recevez un email avec la data room, vous signez un accord de confidentialité, puisqu'on a certains audits qui sont hyper confidentiels, et il y en a d'autres qui le sont moins, mais de toute façon il faut toujours signer un accord de confidentialité, parce qu'on est dans de l'exclusif, nos deals vous les retrouverez nulle part ailleurs. Donc ensuite vous consultez la data room, présentation, vous avez les simulations de ce que ça peut représenter en tant qu'investissement, vous avez toute une data room, les pièces jointes qui confirment les garanties, les contrats, etc. Vous les étudiez. De temps en temps, on fait une session de questions-réponses la semaine d'après si on en a besoin ou pas, selon la structuration du deal. Puis après, c'est fini. Et puis après, on passe au prochain deal. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est hyper simple.
Je confirme également tout le process pour l'avoir suivi sur les précédents deals. C'est vrai qu'on... Je peux témoigner en effet que vous mouillez la chemise, en tout cas que vous appliquez encore une fois dans un but de pédagogie, d'accompagnement, et vous donnez du temps là où d'autres peut-être ne prennent pas ce temps d'explication, etc. Ça reste un peu plus abstrait. En effet, vous sur les deals que vous proposez, voilà, vous organisez comme ça avec ce petit zoom de présentation. Même des fois, comme tu l'as mentionné, un zoom de questions-réponses pour accompagner les différents acteurs qui voudraient se positionner, qui ont encore quelques petites craintes, quelques petits blocages ou des incompréhensions. Ça peut arriver des fois. Vous mouillez la chemise en tout cas pour accompagner tout le monde. Et de toute manière, c'est pareil, les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune, ils ont peut-être aussi écouté l'épisode, l'émission qu'on avait fait avec Lysiane, qu'on embrasse aussi. Et pour l'avoir régulièrement, un petit peu discuté régulièrement avec elle, on voit qu'en effet, chez vous, avec Mike Lobdil, on a cette volonté, comme on t'entend aujourd'hui avec toute cette énergie, cette passion, la volonté de s'activer, de travailler, d'aller, de construire des choses. Et encore une fois, pour suivre ce cheminement depuis quelques années maintenant, je suis bien content de voir cette évolution, et en tout cas je suis bien heureux d'avoir mis une petite participation dans l'aventure.
C'est vrai qu'on a beaucoup d'intérêt, nous on est là pour construire une grosse marque internationale, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, mais merci Ismaël de préciser ceci.
À titre personnel, toi, Jean-Guillaume, quelles sont tes classes d'actifs préférées peut-être? Et est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu souhaiterais peut-être jamais y aller et pourquoi?
Alors moi, je suis un gros fan de private equity. J'ai carrément fait un prêt CTLM à l'époque pour investir, etc. Et puis, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis... Donc moi, je suis un vrai passionné du private equity parce que c'est de la valeur ajoutée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, quand vous montez votre boîte, vous êtes forcément privé. Et quand vous allez voir un institut financier ou des partenaires pour lever des fonds, et vous dites, moi, j'ai besoin de 100 000 euros pour réaliser, ça peut être n'importe quoi dans votre idée, etc. Vous pouvez avoir de la vision, voilà, sur plein de choses. La banque vous dit, pose 100 000 euros et moi, je te prête 100 000 euros. Et là, tu lui dis, non, mais t'as pas compris, là. Moi, je te demande de m'aider dans mon business en tant qu'entrepreneur parce que je vais faire de l'argent, je vais faire du cash, je suis motivé, c'est mon idée. On va construire une équipe, on va tout faire. Et puis, toi-même, tu vas être content, banquier, parce que moi, je vais te donner de l'argent à placer si tu me fais confiance. Ah non, mais nous, voilà. Donc, le private equity est une classe d'actifs qui, pour moi, est un compromis entre du soutien de l'économie. Alors, on peut investir en private equity dans de l'immobilier pour faire de l'argent, etc. Mais quand je parle de l'immobilier, là, on est en train de construire des résidences étudiantes. Moi, j'étais ravi de faire ce projet parce que j'ai souffert de vivre dans des résidences étudiantes qui étaient pourries, qui étaient dégueulasses, qui étaient machin. Donc, on participe à l'amélioration aussi de le développement de la vie des gens, des étudiants. Faut pas oublier d'où on vient non plus. Là, on est sur un projet multigénérationnel. Moi, j'ai eu mes deux grands-parents, malheureusement, qui nous ont quittés. J'ai une grand-mère qui est partie en maison. C'est des ghettos pour personnes âgées. Ça te donne envie de mourir. Et tu comprends pourquoi, des fois, l'espérance de vie, elle est à la fin. Et on devrait préserver nos seniors. Donc là, quand on est sur un dossier multigénérationnel qui nous viennent d'idées de Scandinavie, où vous allez avoir une mixité entre des personnes seniors, des personnes donc un peu plus âgées, avec certaines chambres médicalisées, mais vous avez toutes des familles qui vivent là-bas, etc. Avec un concept, là, on a trouvé un concept qui va être financé à 95% sur 50 ans, à moins de 2% par un organisme étatique, en l'occurrence au Canada, avec un de nos partenaires. On travaille dessus. Il y a que 5 millions d'equity sur un projet à 100 millions à sortir. Voilà, on a d'autres choses. Je vais pas tout vous dire, mais en gros, on est sur un projet multigénérationnel. Ça va améliorer le quotidien des personnes âgées. Ça va améliorer plein de choses. Donc, même dans l'immobilier, vous trouvez quelque chose comme ça. Mais pour revenir à mon point, quand on crée de la valeur, quand on monte une boîte, quand on a l'objectif de disrupter certains marchés, d'améliorer le quotidien des gens et tout, on crée de la valeur. Et sans private equity, comment on fait? Donc, il faut à un moment donné, je trouve que c'est hyper gratifiant. Pour moi, ça s'assimile presque à du don, mais avec retour sur investissement. Moi, je le vois aussi comme ça. Moi, la première société dans laquelle j'ai investi, mon père avait un cancer. C'était pour lutter contre des cellules cancéreuses qui avaient eu déjà un approval aux États-Unis pour pouvoir le soigner, soigner des personnes atteintes d'un cancer. Je veux dire, demain, la recherche en santé, et dans tout, je veux dire aujourd'hui l'écologie, je vous parle même pas du chaos qui est en train de se passer au niveau de l'écologie mondiale, où on se rend pas compte de ce qui va se passer avec les ressources d'eau minérales qui sont en perdition pour certains pays. On parle de, je veux pas vous affoler non plus, mais on parle quand même de 700 millions de réfugiés climatiques dans 10 ans qui vont créer probablement des guerres, des changements, des bouleversements. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde qui part en vrille, et si on n'investit pas dans des technologies, dans des gens, dans des projets qui sont bons pour la planète, on est en train de s'auto-mutiler. Et à un moment donné, l'argent, il sert à quoi? Il sert à créer. Je vois le private equity comme ça.
Ça permet d'investir avec du sens, chose que j'aime bien dire sur l'émission. Il est intéressant ça reprend tes propos liminaires, hein, c'est de le faire en conscience, ce qui est bon pour soi, et en tout cas de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc le private equity, c'est une manière comme ça d'investir avec du sens. J'aime bien ton petit parallèle, c'est comme un don avec un retour sur investissement. C'est plutôt intéressant comme vision. Donc le private equity, est-ce qu'à l'inverse, t'as une classe d'actifs sur laquelle tu penses ne jamais y mettre les pieds?
C'est une bonne question. Je ne pense pas, à part certains, pour des raisons éthiques. Au début, par exemple, quand il y a eu tout ce qui était au niveau du cannabis et tout ça, moi, je suis pas un gros fan, pour avoir vu certaines personnes de mon entourage être très affectées par des drogues, etc. Même si aujourd'hui, je trouve qu'il y a des effets bénéfiques, et je me suis renseigné et j'ai appris et j'ai vu que c'était une claque d'actifs qui était beaucoup plus intéressante. Mais à la base, j'étais complètement réfractaire et fermé sur le principe. Mais aujourd'hui, donc du coup, celle-ci, pour moi, aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi un objet de diversification. Je pense qu'il y a du futur dans certaines cryptos, Mais le problème des cryptos, de certaines cryptos, c'est que moi je suis très bullish sur les crypto-monnaies, sur la blockchain en général, etc. Je pense que, mais bon, il va y avoir un nettoyage à faire. Le problème de certaines cryptos, c'est que, bon, déjà, il y a eu beaucoup d'engouement sur des ICO avec des fake coins ou avec des choses comme ça. Moi, je suis un entrepreneur et j'aime que les choses soient tangibles derrière. Et j'aime que ce soit backé par quelque chose de tangible. Là, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un sur la blockchain qui est en train de développer quelque chose qui est backé sur du silver, donc de l'argent. Aujourd'hui, la monnaie est censée être backée sur l'or, mais c'est pas le cas des réserves fédérales, de tout ce qui s'est passé. On imprime de l'argent à ne plus savoir. Enfin, voilà, il y a un sujet un peu presque politique, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je dirais qu'il faut investir dans des choses qui, derrière, ont quand même de la valeur. On parle beaucoup d'NFT. NFT, je trouve ça hyper intéressant sur le concept où on monétise la création de valeur d'objets physiques ou même digital qui permettent aux gens d'avoir en fait une participation sur quelque chose qui va leur permettre, si on croit au projet, de s'accroître en valeur et potentiellement de le revendre demain. Moi, je suis très dans la diversification. J'essaie de réfléchir. Moi, je crois beaucoup au tout ce qui est investissement dans l'eau, investissement dans les ressources énergétiques. Voilà, l'or, je m'en suis toujours, je parle dans des mining ou des choses comme ça, des fois si jamais ça a suscité beaucoup de problèmes avec beaucoup d'enfants qui travaillent, machin, etc. J'ai jamais été très très fan, mais il y a des belles sociétés qui font aussi des bonnes choses. Donc je dirais que sur le principe, pas trop, si ça touche pas à la morale, voilà. Je pense que pour moi, il faut être un peu investi partout, mais pas trop non plus, parce que si vous investissez dans 100 milliards de choses, à un moment donné, trop de diversification tue la diversification. J'ai un livre qui est magnifique, que j'adore, de Ray Dalio qui s'appelle Principles, qui a un bon livre, où il explique les limites aussi de la diversification. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, à mon sens. Du coup, lui, il parle d'avoir un certain nombre, au-delà d'un certain montant, c'est compliqué. Donc, pour moi, il faut avoir un portefeuille boursier long terme. Si on veut s'amuser à faire du court terme aussi pour avoir ça avec des outils de gestion de risque, etc., comme nous, on a avec Aria, je vous dirais, on est les premiers consommateurs de nos propres produits. Hein. Donc, ça, c'est bien. Investir dans de l'immobilier pour détenir du physique, c'est bien. Mais où va le monde Parce que voilà, aujourd'hui, vous pouvez investir dans de l'immobilier à travers des club deals. C'est aussi un bien de diversification. Investir dans des boîtes qu'on croit. Enfin voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.
La curiosité est, voilà, de donner encore une fois du sens et que ce soit tangible, qu'il y ait une utilité derrière. On sent ça, c'est super intéressant. Pour finir, écoute Jean-Guillaume, parce que ça fait une bonne heure qu'on est ensemble, je te remercie encore une fois pour ta dispo. J'aurais tout de suite deux questions. La première, je demande à chaque invité qui vient sur le podcast de la Bonne Fortune s'il a une petite citation, un petit mantra, une petite citation coup de cœur qu'il aime se répéter. Est-ce que tu peux nous la partager et nous expliquer un petit peu pourquoi ? La deuxième question qui viendra par la suite... Quel était, toi, tu parlais de déclic quand tu t'es lancé dans le domaine de l'investissement d'une façon générale. Quel était ce déclic et quel était ton meilleur investissement?
J'ai beaucoup de citations qui m'entourent, mais quand tu me poses la question comme ça, il y en a une que j'adore. C'est une phrase de Confucius qui dit « Who he say he can and who he say he can't are both usually right ». Donc, celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il peut pas ont très souvent tous les deux raisons. Et ça c'est vraiment une question de mindset pour moi. Ça reflète vraiment celui qui se condamne tout seul à ne pas le faire parce qu'il dit « j'y arrive pas, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Et du coup, ben clairement, tu le feras pas. Et il y a celui qui se dit, ben je peux le faire, j'ai le temps, je trouve le temps. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. La vérité, c'est que si on analyse le monde aujourd'hui, vous prenez les milliardaires, vous prenez les centaines de millionnaires, les dizaines de millionnaires, les milliers, les pauvres et les gens qui galèrent vraiment. On a tous 24 heures dans une journée et on a suffisamment de recul pour s'apercevoir que c'est pas d'où tu viens, ton background, ton sexe, ta couleur de peau, enfin tout ça. Enfin, ça paraît un peu bateau, mais quand on réalise, moi ça a été un déclic majeur, c'est le jour où j'ai réalisé qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et pourtant, il y a des gens qui ont deux boîtes, qui ont des milliers de salariés, quatre enfants à la maison, des trucs à gérer, des problèmes. Et plus vous montez, plus les problèmes deviennent de plus en plus gros à gérer. Et à un moment donné, tu te dis que pour moi, on a tous nos problèmes. Faut arrêter de penser que c'est que pour les autres. Et on se crée son futur. Donc pour moi, cette citation, c'est un rappel constant de tu peux tout faire. C'est une ouverture du mindset.
Et c'est pareil, je sais que personnellement, ça me fait hérisser le poil quand j'entends « j'ai pas le temps ». Parce que ça veut rien dire, avoir le temps. Il y a personne qui a le temps. On a tous, comme tu dis, 24 heures dans la journée. Donc quand j'entends ça, « j'ai pas le temps », ça sous-entend « j'ai pas pris le temps ». Ou alors j'ai pas l'envie, ou j'étais dans la capacité de, peu importe, mais le j'ai pas le temps, ça veut absolument, à mon sens, rien dire, et c'est une des expressions qui mérite le plus le poil.
C'est vrai, et même moi, je me reprends à le dire, à le faire, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est faible, et parce que on doit se rappeler, parce que des jours on n'a pas envie de se lever, parce que des jours on est fatigué, parce que voilà, des fois il y a des fois où on mange pas. Il y a des fois où je mange pas parce qu'il faut que j'aille dans un event. Il y a des fois où on enchaîne tellement de trucs que, et voilà, c'est du sacrifice. Donc t'as pas le temps, mais en fait ça dépend, en fait, parce qu'il y en a qui décident de manger, il y en a qui décident de pas manger, il y en a qui décident d'aller faire du sport le matin une demi-heure avant d'aller bosser, il y en a qui décident de lire une heure avant de se coucher, il y en a qui... Donc c'est qu'une question de priorité, et faut pas se voiler la face et de prise de décision par rapport à ça. Et ça m'arrive aussi un jour, et des fois je me dis putain, mais non, c'est pas j'ai pas le temps, c'est je prends pas le temps. Et des fois les personnes le reprennent, parce qu'on est, voilà, on est des êtres humains et on est là pour progresser. Donc voilà, ça c'était par rapport à ça, et je suis d'accord avec toi. La deuxième, c'était quoi?
C'était ton déclic d'investissement, et ou alors ton meilleur investissement que tu aies pu faire jusqu'à aujourd'hui.
Déclic d'investissement, ça a été le livre Rich Dad Poor Dad, Père Riche, Père Pauvre, que j'ai lu deux fois. Moi, j'ai trouble d'attention et l'hyperactivité. J'ai très, très peu fini les livres que j'ai commencé. Mais il y en a un que j'ai lu deux fois. C'est lui, et c'est lui qui m'a fait prendre conscience de l'investissement et de développer un système avec le fameux quadrant de l'employé, le small business, le big business owner et l'investisseur. Et ça a été un gros déclic. Jim Rohn a été un gros déclic parce que grâce à lui, j'ai acheté mon premier appartement et mon deuxième. En fait, c'est un mix des deux qui m'ont permis de commencer comme ça l'investissement. Donc, ça a été sur un premier appartement qui m'a coûté de l'argent parce que je voulais acheter pour acheter. J'étais pas assez mature à l'époque. Et j'ai noté les 16 leçons qu'il fallait que j'en retienne, et j'ai acheté mon deuxième appartement en même temps, en s'assurant que ces 16 points rouges devenaient des points verts. Et c'est là où j'ai rattrapé l'argent et voire gagné beaucoup plus. Et c'est là où je me suis refait. Donc voilà. Donc ça a été un investissement. Maintenant, mon meilleur investissement, c'est deux choses. Je dirais l'investissement en développement personnel, en soi, en temps, en heures passées de formation à traîner mon cerveau, à apprendre, à lire, à me former aussi dans des événements, des conférences, etc. Nous, on a donné des conférences qui s'appellent notamment le BIF, le Business Investment Financial Festival, voilà, Business Immobilier Finance Festival, qu'on aimerait refaire, j'espère, un jour, parce que ce genre d'événement, ça ouvre, voilà, le cerveau. Moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai marché sur le feu avec Anthony Robbins pendant deux fois, j'ai amené ma femme là-bas pour qu'elle prenne de la vision aussi sur pas mal de choses. Donc, je dirais l'investissement en développement personnel parce que ça crée l'ouverture du reste. Et pour moi, c'est un investissement qui découle sur l'investissement financier, parce que ça se fait qui tu es, comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu abordes les choses. Et du coup, ça se voit dans ta manière de parler, dans plein de choses. Donc, je dirais que c'est ça le numéro un. Et le numéro deux, je dirais que c'est l'investissement dans Green Bull, parce que on est aujourd'hui, moi, je dédie ma vie au groupe, hein, pour pouvoir justement la faire décoller, la faire développer. Et c'est un investissement en temps, en énergie, qui pour moi sera rentable dans le futur. Ça l'est déjà, mais on est tellement sous l'eau que c'est rentable bien sûr, mais je suis pas encore 100% satisfait. On n'est pas dans une logique, et je pense même pas que ça nous arrivera, mais on n'est pas dans une logique encore où on se repose sur nos lauriers, on se dit regardez, non, même si ça paraît gros, même si ça paraît bien, je veux dire, pour moi on est à l'apéro là.
Yes.
Pour moi, on n'a rien, on est vraiment au tout début, et on est là pour du long terme. Donc, je dirais l'investissement financier que j'ai pu mettre dans Green Bull, parce qu'on a financé le démarrage de tout, et voilà, je dirais que c'est ça.
Il y a une volonté pour Green Bull d'être investi en bourse ou pas?
Ça peut. Ce qui est sûr, c'est d'augmenter la valorisation. Donc, ça pourra passer par une introduction en bourse, ou ça restera privé si on décide que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que l'un ou l'autre, ça rendra satisfaisant les actionnaires, et on verra.
Ok.
Je vais peut-être finir sur une chose que je voulais dire, c'est que là, les deux prochains deals sont hyper intéressants qu'on est en train de structurer. Je les ai pas totalement finis, mais on est sur un financement de data center avec du mining hyper intéressant, et on est sur une boîte qui va justement une boîte très rentable qui va continuer à faire des acquisitions et qui va vouloir faire une cotation en bourse, un investissement en bourse. Donc on travaille là-dessus. On va voir si ça passe le comité d'investissement, mais on est très bullish sur ces deux projets qui arrivent soit d'ici de la fin de l'année, soit début de l'année prochaine. Voilà, pour info.
Pour les auditeurs de La Bonne Fortune, j'allais te demander, est-ce que tu peux faire un geste ou pas pour celles et ceux qui souhaitent rentrer dans MyClubDeal, mais tu l'as dit, c'est déjà gratuit.
Et puis, il n'y a aucun engagement, voilà, ouais.
Une petite question pour le fun, tu préfères bosser avec Lisiane ou avec Yann?
C'est pas les mêmes types de relations de travail. Je dirais que j'aime bien bosser avec les deux, c'est juste qu'on fait des choses complètement différentes. On travaille vraiment en teamwork. Avec les deux, avec Yann, ça va plus être sur valider les deals, ça va plus être sur challenger le pourquoi on fait ce deal-là et pas un autre. Donc, ça se fight beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il a ses arguments, j'ai les miens. Donc, c'est le cerveau collectif et on se bat là-dessus, mais c'est constructif. Avec Lisiane, on est plus dans comment on va faire en sorte de satisfaire tout le monde, comment on va faire en sorte de scaler le groupe, de le développer. Avec Lisiane, c'est plus le soutien, le support du développement du groupe. Donc c'est deux ambiances complètement différentes. Moi, j'aime bosser avec les deux.
Ben merci, t'as bien répondu à cette petite question piège. Mille merci encore une fois pour ton temps. J'ai envie de te laisser le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui écoutent l'émission jusqu'au bout. C'était un échange passionnant, on sent cette passion, même à distance. C'est cool, ça donne la pêche, ça va donner la pêche à celles et ceux qui nous écoutent, à n'en pas douter. Et écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette émission, Jean-Guillaume.
Un mot de la fin, d'un point de vue mindset, je pense que c'est la base de tout et je pense qu'il faut travailler dessus et travailler sur soi en investissement personnel, c'est hyper important. Il faut bien comprendre d'un point de vue investissement le principe de diversification. Il faut pas hésiter à prendre un rendez-vous avec soi-même parce qu'il y en a très peu qui le font. Au final, on passe notre vie à prendre des rendez-vous et à subir le calendrier des autres et très peu de personnes prennent vraiment le temps de se poser sur leur agenda, leur investissement, leur fichier Excel. Même moi, je le fais pas assez comparé à d'autres associés qui sont beaucoup plus diligents là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Donc je vous le dis, posez-vous. Si vous êtes satisfait de vos finances, continuez d'essayer de voir comment vous allez pouvoir générer plus de cash. Si vous n'êtes pas satisfait, il faut vous poser les bonnes questions, faut couper les dépenses. Ça ne veut pas dire d'être radin, au contraire, ça veut juste dire de faire attention aux choses que vous ne voyez pas, que vous pouvez améliorer et optimiser. Ça passe par là aussi, gagner plus d'argent. Et la deuxième chose, c'est voir comment vous pouvez vous créer plus de temps pour créer plus de cash et comment avec le cash que vous avez, vous pouvez le diversifier. Je vous invite vraiment à faire le prime et c'est gratuit, vous verrez, il y a le fichier Excel, il y a tout pour vous poser à vraiment définir combien vous êtes capable de mettre par mois de côté et à vous payer en premier. Je veux dire, demain, aujourd'hui, le premier intéressé, c'est vous. Demain, vous gagnez 2500 euros, 3000, 10000 ou 1500 euros. Il faut qu'il y ait un bon 10, 20, 30%. En priorité, vous payez vous. Ensuite, payez le loyer. Ensuite, vous payez le reste. Et ensuite, du coup, ça vous oblige à avoir une bonne mentalité. Donc voilà, si ça vous aide, tant mieux. J'espère que ça a été constructif pour vous. J'ai pas trop parlé parce que j'ai tendance à m'étaler, mais je fais dans une perspective de compréhension et de vous montrer peut-être à travers mon prisme comment on peut penser différemment et comment voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, allez sur myclubdeal.com, allez sur Yann Darwin. Continuez de suivre La Bonne Fortune. Je remercie Ismaël de mettre en place aussi des podcasts comme ça parce que ça permet aussi à tout le monde de démarrer, de comprendre et de voir où est-ce qu'on en est. Donc, et le but, c'est aussi de give back et de donner. On se rend pas compte aussi avec les années qui passent la masse de choses qu'on peut finalement enseigner aux gens parce que comme un enfant qui grandit, vous le voyez quand vous le voyez pas tous les jours, vous le voyez au bout de 3 ans, mais quand vous le regardez tous les jours pendant 1 an, vous voyez pas, mais il fait des pas significatifs. Et je pense que, en tout cas, une des choses qu'il faut qu'on fasse un peu plus, c'est transmettre plus régulièrement pour pouvoir, en tout cas, transmet, je parle de MyClubDeal parce que Yann transmet tous les jours, je crois qu'il est hyper régulé là-dessus et puis Guillaume le fait aussi sur les marchés financiers, donc n'hésitez pas à vous pluguer et à voir ce que vous aimez, vous n'êtes pas forcément friand de toutes les classes d'actifs, renseignez-vous, essayez de comprendre pourquoi aussi, très souvent ce qui nous fait peur c'est ce qu'il faut qu'on fasse, faut pas l'oublier. Voilà le petit mot de la fin, et de kiffer votre life aussi et de remettre bien les priorités au milieu de votre foyer et de tout ça, voilà, c'est important.
Merci Jean-Guillaume. Donc on retiendra que l'on se dise que l'on peut ou qu'on se dise qu'on ne peut pas, on aura toujours raison. Donc faisons en sorte de se donner les moyens d'y arriver. Merci pour tout. Excellente journée à tous et je te dis à très très bientôt Jean-Guillaume. Allez, ciao à tous.
Merci à toi. Ciao, ciao.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.